chaud, il y a de l'air vraiment de bonne humeur aujourd'hui. On se demande pourquoi. Peut-être serons-nous plus tard dans les prochaines minutes. C'est quoi? Comment ça, t'es de bonne humeur de même? T'as-tu demandé en mariage? Enfin!
Non, je te l'ai dit, mon chum ne veut pas me marier, fait que je vivrai probablement jamais ça.
Il n'est pas sûr de ses sentiments.
Non, dis pas des affaires de même, là. Tu vas me rendre un peu cinglé folle, je vais poser des questions, c'est pas une bonne idée.
Parce qu'il pense qu'il y a peut-être quelque chose ailleurs de mieux.
Peut-être, qui sait. Il y a toujours quelque chose de mieux ailleurs.
Il veut pas te réserver.
Il y a toujours quelque chose de mieux ailleurs et toujours quelque chose de pire. C'est ça qu'il faut se dire. Ah oui, absolument. Je sais qu'il y a mieux que moi ailleurs. Probablement plus saine d'esprit, sûrement plus jolie, plus intelligente. Il y a toujours du monde qui ont plus et moins que nous dans la vie.
Non, impossible. Ça,
maintenant, faut que tu te cases dans la vérité aussi. Là.
Non.
Non, mais je suis bonne humeur aujourd'hui parce que, un, il fait excessivement
beau. Dans ton cas, c'est
beau.
Impossible. C'est pas de te sauver. C'est impossible. Moi, si j'étais lui, je réfléchirais. Là.
J'espère.
Oui. C'est,
je pense que je suis une femme à marier pour vrai, par exemple. J'ai la prétention de
je
dire
pense
que
oui aussi.
J'ai beaucoup, j'ai, oui. Je pense.
Si j'étais lui, j'hésiterais pas.
J'ai beaucoup de problèmes mentaux, mais je suis une femme à marier.
Mais si, hésite! Il y a des raisons.
Sûrement.
Et c'est ça...
L'argent, Yann.
...qu'on aimerait savoir.
C'est ça la raison principale, l'argent.
Il a peur que tu partes avec la moitié de ses avoirs.
Moi, je la jette par les fenêtres. Lui, la garde dans un coffre-fort. Tu comprends? On s'entendra jamais.
Il la garde dans un coffre-fort? C'est-tu le genre de gars à mettre de l'argent en dessous de son matelas, maintenant?
Non. Il est très intelligent. Honnêtement, je pense que j'ai le gars financièrement le plus intelligent entre les mains. Là. Depuis que 12 ans, ce petit gars-là, il travaille, il pile, il place, il connaît ses affaires.
Bon Dieu, qu'il doit être plate.
Il y a un côté plus beige, puis il y a un certain côté plus coloré. On travaille là-dessus.
Ouais. Tu veux que je te raconte? J'ai deux histoires à te raconter. La première est encore plus impressionnante que la deuxième, mais si on a le temps, je vais te raconter la deuxième. Mais la première, moi, j'ai habité longtemps au centre-ville de Québec. Je suis né là, puis tu sais, j'ai fait quelques escapades à Beauport, mais sinon, pour la plupart du temps, j'étais au centre-ville de Québec. Puis à chaque année, lors des déménagements, il y en a qui vident leur logement puis qui laissent ça sur le trottoir.
C'est vrai.
Puis il y a des ramasseurs qui passent, ben oui. Puis ils ramassent ce qu'il y a sur le trottoir, mettent ça dans le camion, puis après ça...
J'ai découvert ça cette année.
Sable ça un peu, peinture ça, ben puis essaie de revendre ça sur des marchés aux puces dans le temps. Là, aujourd'hui, c'est sur Marketplace. Ouais. Y a, comptoir Emmaüs, c'est rempli de... Je sais pas si c'est où le comptoir Emmaüs, mais c'est au centre-ville. C'est rempli de meubles qui ont été donnés. Eux, les lavent, puis après ça, les revendent, bien entendu. Puis cet argent-là va aux pauvres. Puis à chaque année, ça arrive, ça. Puis à un moment donné, c'est arrivé ça à Québec, il y a à peu près une trentaine d'années. Il y a un individu, malheureusement, son père est décédé.
Oh.
Et il a décidé, lui, qu'il devait vider l'appart, puis il a fait cette fameuse technique-là où on met les meubles sur le bord du chemin puis ils se font ramasser. Et sa mère était dans un foyer de personnes âgées, et quand elle lui a dit « Oublie pas, dans la commode, caché en arrière d'un bout de bois, il y a de l'argent à papa », là, ça l'a fait paniquer, et partout... Puis, je ne sais pas si c'est une panique qui s'était créée, mais partout, il y avait affiché sur les poteaux d'Hydro-Québec la photo du meuble qu'il cherchait.
Parce que quelqu'un était parti avec déjà.
Oui, puis, tu sais, de ce que je comprends, c'est qu'il y avait comme une... Il disait qu'il y avait comme une certaine valeur émotive à ce meuble-là.
Oui, parce que tu dis pas qu'il y a de l'argent dedans. Hein,
mais l'histoire derrière, c'était ça. Puis, moi, je l'ai su d'un cousin qui était son ami très proche, là, c'était son meilleur ami. Puis tout le monde recherchait ce meuble-là. Et on ne parle pas de quelques centaines de dollars. Là. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui étaient cachés dans ce meuble-là, derrière un genre de faux morceau de bois. Là. Ben c'est un morceau de bois, mais en même temps, c'est comme un faux fond. Puis le monsieur, lui, il isolait son meuble avec les liasses d'argent.
Il y en a qui cachent ça dans le plafond. Le matelas, oui, mais ça, le matelas, j'ai l'impression que les gens sont un peu moins... T'es niaiseux si tu mets ça là, là. Je veux dire, c'est tellement à portée de tout le monde. Là.
Dans les matelas?
Ben oui. Tu vois ça dans les films, tu vois ça. Il me semble, moi, je suis une voleuse experte dans la vie. La première place où je regarde, là, c'est en dessous du matelas.
En dessous du matelas, OK, ouais. Je comprends. Parce que je comprenais dans le matelas, je dis,
non.
Où, tu sais, c'est...
Quoi qu'il paraît qu'il y en a qui font ça, là, ça se cache partout de l'argent.
Ça
là.
Doit faire une petite bosse. Puis la deuxième histoire, ça, c'est une histoire vraie. C'est un peu plus près de moi, mais c'est pas très près, OK? C'est un gars qui a aidé son père à vendre sa maison. Son père a toujours eu des relations très... particulière avec des groupes de motards criminalisés. Puis, c'était quelqu'un qui n'a pas vraiment travaillé de sa vie. Je vais changer un peu les paramètres là, pour ne pas identifier les gens. Mais il n'a pas vraiment travaillé de sa vie, sauf pour des groupes criminalisés.
Okay.
Puis, à un moment donné, il a vendu sa maison après plusieurs années. C'était sa maison qu'il avait eue depuis toujours. Puis, il en a acheté une autre. Puis, il y a eu un flash La mémoire est très particulière, hein, parce qu'il y a des choses qu'on va se souvenir toute notre vie, puis il y a des choses où tu vas regarder comme un immeuble, tu sais que tu y as été, puis tout d'un coup, tu te souviens de gens que tu te souvenais plus pantoute.
Oui, c'est vrai.
Et là, lui, il est dans sa nouvelle maison, puis il dit à son fils, « Hein, je me souviens que j'avais laissé de l'argent dans un mur de l'ancienne maison que j'avais achetée. » Mais encore là, on parlait pas de quelques centaines de dollars, là. On parlait de plusieurs milliers de dollars. Et là, comment tu fais pour aller chez les nouveaux propriétaires de la maison pour dire « Excuse-moi, il faut que j'ouvre le mur. Il y a des trucs qui sont là qui m'appartiennent. » Ils l'ont fait. La dame n'a jamais voulu ouvrir la porte, ce qui fait en sorte qu'ils ont passé par la cour et le juge a autorisé qu'effectivement, il pouvait faire ce qu'il avait à faire dans son ancienne maison. Puis on lui a permis d'aller dans cette maison-là. Mais tu comprends que quand il a vendu sa poutine au juge, il n'a pas dit que c'était des liasses d'argent provenant du crime organisé,
non,
mettons.
Non, c'est ça.
Okay? Et quand il s'est pointé, puis là, je veux dire, il y a un processus de cours, là. Quand il s'est pointé 18 mois plus tard ou 24 mois plus tard, quand il est allé où se dit mur, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé?
Ben, elle avait déjà défoncé le mur. Mais pas niaiseuse, elle-là, voyons.
T'en penses?
Ben là... C'est bien sûr, là. Tu prends à moitié au moins, là.
Qu'est-ce que t'en penses?
C'est rendu chez vous.
Hein? T'as deux gars qui arrivent chez vous. « Hey, excuse-moi, on aurait peut-être oublié quelque chose dans le mur. On peut y aller? » Non, 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 non. Tu rentres pas chez nous pour fouiller
mais
dans le mur.
Mais je comprends.
Première affaire que tu fais, « Hey, les filles, venez à la maison. Mais... on a un trésor à trouver. »
Tu sais, là, on parle d'argent, mais c'est fou le nombre de monde qui cache des affaires tout court, tu sais, de valeur ou pas de valeur, là. Mais tu vois, mon chum a une collection à maison, lui, de vieux journaux. Mais les premières éditions, genre du Soleil, puis du Journal de Québec, puis... La personne qui lui a donné ça s'en était servie pour le plancher. Elle avait mis ça en dessous du plancher pour, je sais pas, là, je peux pas dire isolé, là, c'est pas des journaux qui vont isoler quoi que ce soit, mais il s'était servi de ça, bref, pour construire sa maison. Puis en débâtissant, puis en changeant, puis en faisant des rénos, ben il avait tout récupéré ça, mis ça de côté, puis bon, il savait que mon chum était un crackpot, fait qu'il avait donné ça, mais t'as du monde qui cache toutes sortes d'affaires dans les murs. Sans penser que ça a une certaine valeur au bout de quelques années, tu sais.
Ouais. Quand j'ai refait ma maison à Lévis, c'était une maison qui était centenaire. Elle avait été construite en 1880 ou 1890.
T'as-tu trouvé des affaires?
Puis là, moi, je devais tout détruire. Ben, j'étais pas supposé de le faire, mais comme mon beau-père était là, qui est entrepreneur en construction, je me suis dit, si je détruis tout, il va être obligé de m'aider. J'ai fait des enfants à sa fille.
Time to shine.
Fait que j'ai décidé de tout détruire à l'intérieur, ce qui fait en sorte que j'ai enlevé tous les murs et tout ça. Puis il a fallu que je réisole à certains endroits. Puis moi, j'ai pas de base de tu sais, j'ai pas fait de cours à l'école des métiers de la construction. Je sais pas comment ça se faisait avant. Je sais comment ça se fait avant parce que je l'ai appris sur YouTube, là, puis en gossant. Mais je savais pas comment ça se faisait avant. Puis à un moment donné, j'ai commencé à sortir de l'isolation. Puis c'était des vieux journaux de 1890.
OK, fait que je suis pas folle. 1900. C'était pour isoler.
Ah oui, c'était pour isoler. Ils isolaient. Tu sais, en fait, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Je veux dire, c'était
tout
pas
ce
des
qu'il y avait sous la main.
Tu sais, aujourd'hui, on est riche, là, on s'en rend pas compte, mais tu sais, de la laine isolante, là, ça vaut une fortune. Eux autres, ils prenaient ce qu'il y avait à côté. Tu sais, puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte que pour les incendies, c'était pas l'idéal, là, quand tes murs étaient.
L'argent des murs non plus, en passant, là. Hein?
Quand tes murs étaient bourrés de papier journaux, je pense que ça aidait, justement, à avoir une autre maison avec les assurances, là. Puis, j'ai tout sorti ça. J'étais allé porter ça à l'hôtel de ville de Lévis, puis ils n'ont pas vu aucune valeur patrimoniale à ça.
Non!
Non,
j'ai... Je trouve que c'est des archives extraordinaires.
Ah, puis je capotais, tu sais, je voyais des affaires, des crimes qui ont été commis, mettons, en 1905, puis là, je voyais des vieux noms, je trouvais ça vraiment trippant. Moi, je trippe sur l'actualité, je trippe sur les faits divers, surtout. Mais quand je lisais ça, je me disais, ça a une valeur, tu sais. Mais la dame qui m'a accueilli, d'après moi, elle s'est servie de ça pour allumer son bois d'allumage chez eux.
Ah, c'est tellement triste, là.
Ouais.
Je te dis, nous autres, on a une pile à la maison. Puis des fois, mon chum va regarder les dates à savoir il y a combien d'années aujourd'hui, mettons, qu'est-ce qui se passait dans l'actualité, tu sais. Parce qu'on a tout ça sur Internet, mais c'est pas pareil quand tu l'as entre les mains, là, quand tu l'as papier.
Puis notre notion par rapport au temps, tu sais, on se souvient tout du crime atroce de Guy Turcotte.
Oui.
OK. On se souvient qu'est-ce qu'on faisait, tu sais, quand on suivait le procès et tout ça. On se souvient encore de son visage. Mais dans 200 ans, là, il n'y a plus personne qui va se souvenir de ça. Puis si tu ne fouilles pas dans les archives Internet, là, si archives Internet, il y a encore à
puis
ce
encore
moment-là...
encore là, il faut que tu saches quoi fouiller.
Guy Turcotte ne sera plus jamais rien.
Non.
Dans 100 ans, Audrey, les gens qui sont dans ta maison.
Ah, t'as vu ça sur Facebook, hein? J'ai vu la même affaire.
Aucune idée de qui tu es.
Oui. Dans 100 ans, il y a des gens que tu connais pas qui vont habiter, qui vont posséder tes choses, qui vont posséder ton emploi, peut-être. Ouais. T'sais, c'est capoté quand tu y penses.
On vit juste 100 ans.
C'est débile.
Tu sais, puis des trucs comme Abraham Lincoln, là, je t'annonce qu'il n'y en aura plus des gens qui vont se souvenir après tant d'années de ces individus-là.
Ouais.
Tu sais, nous autres, on le sait parce qu'on connaît un peu l'histoire, mais tu sais, la Audrey de 2024.
Tout le monde s'en fout là, dans 100 ans. Là.
Le Pierre de 2024. Le Yannick de 2024. Dans 100 ans.
On connaît pas notre propre histoire, souvent.
Connais-tu l'histoire de tes arrière-grands-parents?
Ben écoute, je connais leur nom parce que je l'ai demandé récemment, parce que j'ai réalisé que je ne savais pas. Mais à moins que tu fasses faire les arbres généalogiques.
Connais-tu le père de tes arrière-grands-parents puis ce qu'il faisait comme métier?
Zéro pin bar.
Nous, notre rapport au temps... Par rapport à l'histoire, c'est vraiment pas la même affaire.
Et qu'on est une graine dans l'univers.
On est vraiment une graine. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, mais plus grosses ou plus petites.
Ouais.
Mais on est vraiment...
Il y a des meilleures graines que d'autres, faut se le dire.
Oui.
Moi, je te suis, là. Non, mais regarde, il y a du meilleur monde.
C'est
que
ça. Mais tu sais, des gens qui vont avoir changé l'histoire. On va se souvenir, des présidents des États-Unis. On va se souvenir, mais quoi qu'il y en a quelques-uns, là, quand je regarde là, au début de l'histoire des États-Unis, je me souviens plus pantoute alors que je les avais appris à l'école. Même chose pour ce qui est des premiers ministres du Québec, premier ministre du Canada. Tu sais, il y en a certains que j'ai oubliés dans l'histoire. Mais dans 1000 ans, il n'y a plus personne qui va se souvenir d'eux.
Zéro. C'est triste quand tu y penses. Puis on passe notre quotidien à stresser, angoisser, à se faire du sang de cochon, à essayer d'être le meilleur dans tout. Ça me fait capoter quand tu as cette perspective-là d'à quel point on n'est rien.
Oui. Puis, tu sais, on parlait de trouvailles tantôt, Ben qui nous écrit. J'ai défait une maison il y a de ça 2 ans. On a trouvé dans un faux fond, dans une cuisine et corridor, 2 000 $ d'argent, or et monnaie. Moi, j'avais un de mes chums qui rentrait toujours très pauvre dans une cour à scrap à Pintendre, puis il ressortait de là avec une poche de monnaie dont t'as pas idée. C'était genre 20-25$ qui se faisait par jour de monnaie, juste en allant fouiller dans les chars qui avaient été laissés là, abandonnés, pour revendre de pièces. Là. Il restait tout le temps de la monnaie là.
Ça traînait.
Puis lui, ben, il allait chercher des pièces pour son char, pour ses amis et tout ça. Puis en plus de ça, il fouillait les fonds de char, les petites crevasses aussi. Mes enfants font ça dans les divans chez nous.
Oui!
Parce qu'il dit, le vieux père, il dort dans le divan. Fait que tu comprends qu'il échappe tout le temps de la monnaie. Ils font la même affaire dans mon char. En dessous, ils checkent en dessous des bancs, voir s'il n'y a pas de monnaie. Ah non, c'est. Puis, tu sais, je te l'ai dit, ce que je faisais, il y a 40 ans, Audrey, quand j'allais à l'aréna, puis je voyais la machine à bonbons, puis j'essayais de trouver une fameuse technique pour faire couler les bonbons, j'ai repogné mes gars à faire ça 40 ans plus tard.
Ah non, ça, c'est fou, là.
Ben oui.
Il y a des gens ici qui nous disent que les murs en bouteille...
Il y avait des murs en bouteille.
Les murs en bouteille. Chez mes parents, il y a un mur et plafond que c'est des bouteilles vides. Tu sais, quand on disait qu'ils mettaient n'importe quoi entre les murs là, pour isoler, là, des bouteilles qui traînaient.
Je pense qu'ils n'ont pas mis des bouteilles pour isoler. Je pense juste qu'ils mettaient les bouteilles en décoration, puis quand ils ont décidé de tout
refermé
par-dessus,
Mais c'est fascinant pareil, là.
Ouais.
Ça aurait probablement intéressé la Société historique de Lévis, Christian nous dit, par rapport à tes journaux que
tu avais trouvés. J'ai tout fait. À un moment donné, là, quand tu pousses puis tu n'as aucune réception là, pour ce qui est des archives que tu as trouvées, tu dis garde au diable, j'aurais fait.
Mais non, c'est sûr, tu as fait ton bout.
Quand j'ai fouillé dans le fond du lac Saint-Joseph, Audrey, on a retrouvé des vieilles bouteilles des années 20.
Fouillé dans le fond du lac?
Oui, chaque année avec l'Aquarium de Québec. L'Aquarium de Québec est encore sur ce programme-là. Moi,
il y a un ménage.
En raison
là.
Du fait que je travaille pas mal de jours la semaine, je fais plus ça avec eux autres. Mais on se promenait dans différents lacs au Québec, puis on fouillait le fond des lacs pour sortir toutes de la vieille cochonnerie. Tu sais. Puis dans le fond du lac Saint-Joseph, on retrouvait des vieilles bouteilles de bière de 1910, 1920, 1930, 1940. Là. C'est capoté là, quand tu fouilles dans vase.
Ouais.
Tu sors toutes ces affaires-là, des pipes amérindiennes qui ont été sculptées. Je ne sais pas s'il y a des Amérindiens qui nous écoutent, 418-971-1021, mais de mémoire, là, c'était en os de quelque chose.
Sculpté à main, puis tout.
Oui, sculpté à main.
Vous faites quoi quand vous trouvez ça?
Ben, la plupart des plongeurs les gardent, là. Mais sinon, tu peux donner ça à quelqu'un à qui tu tiens. Là. C'est des beaux souvenirs.
Mais vous ne devez pas de donner ça, par exemple, pour un musée ou pour une société historique. C'est pas obligatoire. Là.
Exemple. Mettons, tu t'en vas... c'est un mauvais exemple. Là. Mais mettons, tu t'en vas dans un endroit où il y a un bateau qui a coulé.
Oui.
Okay. Puis ça a une valeur historique. Mm-hmm. Ce bateau-là qui a coulé là, bon, c'est un épave, puis c'est répertorié et tout ça. Puis toi, tu vas faire de la plongée sous-marine comme 200 mètres plus loin, puis tu trouves la roue pour conduire.
Oui,
le volant. Tu trouves le volant.
Pour qu'on se comprenne.
Oui. Tu trouves le volant. Ben, tu sais, techniquement, il faut que tu ailles les voir pour leur dire, regardez, moi, je pense que ça appartient à telle affaire. Mais si tu trouves des pipes amérindiennes, tu sais, mon chum Christian, il avait trouvé une poupée, là, effrayante, là. C'était, ça va être dur de se remettre pour l'époque, là. Mais dans le temps, on dompait les vidanges directement dans le fleuve. Fait qu'il y a des endroits dans le fleuve où c'est plus tranquille, où il y a un peu plus de visibilité, puis tu peux aller fouiller là-dedans. Puis lui, il avait trouvé comme une main de bébé qui sortait d'un amas de d'ordures dans le fond du fleuve qui sont là depuis 50 ans. Fait que là, il a commencé à paniquer. Puis quand il a tiré sur la main, il s'est aperçu que c'était une poupée, puis il l'a sortie de l'eau. Mais la poupée, Audrey, elle est effrayante.
Mais j'en doute pas. C'était tellement laid dans le temps, là.
Elle est effrayante. Fait qu'il l'a gardée pour effrayer toutes les plongeurs.
Décoration dans l'eau.
Ben, c'est parce que quand on va faire de la plongée avec, qu'est-ce que tu penses qu'il fait?
Ah, oh, mon doux.
T'sais, c'est lui qui est tout le temps le premier d'entre elles. Fait qu'il l'enterre. Puis après ça, il passe. Puis là, nous autres, on voit ça, tu sais. La panique générale.
Tu sais que ma mère était archéologue.
Ah ouais?
Elle était archéologue dans l'eau. Hein? Tout ce qui est le Onondaga dans le coin de Rimouski. Ouais, elle était archéologue. Puis elle faisait de la plongée carrément dans l'eau pour retrouver les artefacts. Puis amener ça. C'est pour ça que je te demandais si c'était une obligation de rapporter ou si c'était vraiment juste une corvée.
Je connais pas toute la réglementation, mais à un moment donné, il faut être logique. Là.
Ah
ouais. À Morrisburg, en Ontario,
c'est malade,
il y a un endroit spécifique où on plongeait, où il y avait un genre de baril. Là. C'est un baril qui est enterré. Puis là, on a commencé à gosser autour. Puis là, on s'est dit, ouais, c'est parce que là, si on sort ça de là, puis il y a des produits chimiques, exemple, dedans, ça va être encore extrêmement dommageable pour l'environnement. Fait qu'on y touche pas. Fait qu'on avait été à la ville pour déclarer qu'il y avait un baril qui était là. On savait pas c'était quoi qui était à l'intérieur, mais il y a quelque chose là.
Hey, mon Dieu, je trouve ça tellement intéressant. Puis là,
on redescendait dans le truck de l'Ontario, on redescendait à Québec, puis on se disait, « Hey, il y avait peut-être de l'argent là-dedans, tabarnak. On est donc bien calme.
» On aurait dû l'ouvrir, pas que l'environnement.
Des bijoux, tu sais, datant de Louis XIV.
Mais je comprends pas les gens qui ont pas une fascination pour ça. Tu sais, moi, juste les... Dans mon coin à Deschambault, on a le magasin général, okay, qui est ouvert genre depuis 1809. Là, je vois vraiment de mémoire, là, mais dans les années 1800.
Ouais.
Puis au deuxième étage, ils ont gardé tout intact. Puis c'est genre un mini-musée. Hey, c'est une pièce, c'est gros comme le studio. Là. Mais un mini-musée où t'as encore vraiment le contrôle avec tout ce qu'ils vendaient dans le temps, puis les bouteilles, justement, de bière, puis les bouteilles de médicaments, puis ces affaires-là, qui n'ont pas bougé, puis il y en a qui ont encore du liquide à l'intérieur, là, tu sais. Puis ils ont laissé cela intact pour que les gens puissent venir voir qui avait parti ce marché général-là, bon, qu'est-ce qu'il y avait là, et tout, et tout. Puis j'ai une fascination de voir juste l'évolution de nos produits, tu sais, comment c'était... Tu sais, juste dans le temps, quand il allait justement à l'épicerie au dépanneur, là, je disais, c'est une liste que tu mettais, là, c'est une facture qui était infinie, puis à un moment donné, ton père ou ta mère allait payer la facture au bout de deux semaines, tu sais, puis t'as encore ce gros livre-là avec tous les noms des gens qui allaient commander leurs affaires, leurs chapeaux, leurs... Je trouve ça écœurant, hein? Je comprends pas le monde qui a aucune fascination. Pour ça, tu sais, on a quelqu'un ici qui nous dit, moi, j'ai aucun intérêt à savoir qui étaient mes ancêtres, ce qu'ils faisaient, etc. Je vis toujours le moment présent. Je pense jamais au passé ou au futur. C'est une façon de vivre. Mais en même temps, on vient de là. Tu sais, tu t'es jamais demandé, mettons, on se tient ici en ce moment dans le
studio.
Je souhaite
juste que ta petite descendance soit aussi insensible que ça à ton égard.
Ah oui, mais là, ça, c'est personnel, par exemple. On peut pas juger.
Ah, moi, je vis le moment présent. Je me sacre bien de qui m'a mis sur terre.
Non, mais tu sais, là, on est au 815 Le Bourneuf.
Moi, je veux que mes enfants se souviennent de moi.
Bien, assurément qu'ils vont se souvenir de toi. Tes petits-enfants aussi, si ça peut te rassurer.
Je vis le moment présent. Mon père, maman, je m'en crie.
Pas à ce point-là, mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt à faire leur arbre généalogique, par exemple. T'sais, moi, je le lis du côté de mon père, pas du côté de ma mère. Mais je sais pas, c'est des discussions tellement intéressante à voir aussi avec tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, si tu y as eu accès. Mais tu sais, mettons, on est au 815 Le Bourneuf. Moi, des fois, là, je sais pas si ça t'arrive, mais je suis dans des endroits, puis je me dis juste comme, hey, mettons qu'on recule de 300 ans. Il y avait quoi exactement? Je pile sur quelque chose.
Toi, t'es dans une forêt, là.
Mais non, c'est sûr, je suis dans une forêt. Mais tu sais, je veux dire, des fois, tu te demandes, tu sais, si tu es un ancien cimetière, c'était la maison de qui? Il y avait quoi ici? C'était-tu un chemin?
J'ai des photos aériennes. Je me rappelle plus où j'ai mis ça, mais j'ai des vieilles photos aériennes qui avaient été prises sur le boulevard Laurier. Je sais pas si ça s'appelait comme ça dans le temps, mais à l'endroit exact où le Cosmos est, avec l'hôtel classique, là, où Place Laurier est. Puis c'est un champ, là. C'est des champs de patates.
Ah, mais c'est ça, c'est capoté. Mais moi, je trouve ça malade.
Le farmer qui était là-dessus, là, qui cultivait ça, là, 100 ans plus tard, il s'attendait-tu à ce que ça devienne comme un des pôles stratégiques de
Mais
Québec?
Comme nous autres, on ne peut pas s'imaginer pantoute de quoi va avoir l'air la ville dans 200-300 ans. Hey, peut-être qu'il va y avoir des autos qui volent là, dans le ciel. Là. Non, mais tu comprends. On n'a aucune idée. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant.
Hey, parlant de choses fascinantes aujourd'hui, vous allez être agréablement surpris. On s'excuse pour les gens sur Twitch parce qu'on va devoir avoir un genre d'écran noir. Là, parce que ce qui va arriver en studio, c'est un personnage qui a eu une super de belle carrière dans la police. C'est un agent infiltrateur. Donc, on les appelle les agents d'infiltration. Là. Il a fait ce job-là pendant à peu près 18 ans. Puis, pour des raisons de sécurité, on va garder tout éteint ici.
Ouais. Je suis tellement énervé, oui, là. Vous allez l'entendre sur Twitch en
passant. On va l'appeler John Doe. On l'appelle-tu John Doe?
Ça va être, son nom, c'est John Rodrigue Allemand.
John Rodrigue Allemand.
Est-ce que c'est son vrai nom? Qui sait? Nous le saurons jamais.
C'est un policier de presque 40 ans d'expérience. Il est retraité depuis 2013, mais il a fait une bonne partie de sa carrière comme agent d'infiltration. Fait qu'on va en savoir plus sur ce métier-là. Dans l'open mic, la parole est pour tout le monde. Donc, si vous avez des questions à lui poser, tu sais, concernant son travail d'agent d'infiltration, ça va être tout par texto 88-971-102. Mais les gens sur Twitch, à un moment donné, la caméra va rouvrir à un moment donné, là, mais John va être parti.
Oui, exactement. Parce que le but, c'est de ne pas l'exposer. Puis on va avoir une paire de billets pour vous autres aussi plus tard dans le show si vous tripez plutôt sur Jelly Roll. Les dates ont été annoncées là, pour son spectacle du côté de Montréal. On a une paire de billets à vous donner un petit peu plus tard. Fait qu'on a un agent d'infiltration qui s'en vient.
Puis des billets pour Jelly Roll.
Yeah! 418-971-1021,
418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Jay Scott, t'étais où? Ah, je vous le dis, vous allez être agréablement surpris par notre invité qui vient de se présenter en studio. Désolé pour les gens qui sont sur Twitch. Normalement, vous pouvez voir tout ce qui se passe en studio. Et là, pour une raison assez évidente, on est obligé de couper l'image parce qu'on a un ancien agent d'infiltration, donc un agent double qui est en studio avec nous autres. Puis, il faut conserver son
anonymat.
Son anonymat.
Je suis tellement énervé, voilà. Yann.
Puis, merci beaucoup à notre collaborateur Danny Morissette qui nous a fait penser à ça, qu'on pouvait avoir peut-être un policier qui a fait ce style de travail-là dans la police. De ce que je comprends, il l'a fait pendant presque 40 ans, donc 37 ans d'expérience comme policier. On va l'accueillir, si tu le veux bien, Audrey. On va l'appeler pour la bonne cause, John Rodrigue Allemand, aujourd'hui. Monsieur Allemand, bonjour.
Bonjour à vous.
Très content de vous rencontrer. Policier de carrière, presque 40 ans, vous en avez vu des choses passer à Québec?
Énormément, effectivement.
Ouais. Est-ce que vous étiez pour la Sûreté du Québec ou vous étiez pour d'autres corps de police à la grandeur?
Sûreté du Québec.
Sûreté du Québec.
Oui, c'est ça. Ma carrière, en fait, j'ai 7 ans de patrouille. J'ai 18 ans au niveau des enquêtes là, de crimes organisés. En fait, toutes les enquêtes, à part peut-être la cybercriminalité qui est... n'existait pas vraiment dans mon temps à ce moment-là. J'ai touché à toutes les enquêtes diverses, donc crimes organisés, surtout au niveau antidrogue, c'est ma spécialité. Et j'ai fait 12 ans aussi aux enquêtes, là, puis à la protection de l'État québécois. Mmh.
Vous avez fait 37 ans de carrière comme policier. Il y a carrément la moitié de ça qui a été comme agent d'infiltration. Comment on en vient à devenir justement agent d'infiltration? J'imagine que c'est pas du jour au lendemain, là?
Non, effectivement. Puis moi, personnellement, là, je suis de la vieille école. Je pense que pour devenir agent d'infiltration, entre autres choses, il faut avoir eu une carrière au niveau de la patrouille, d'avoir appris comment ça fonctionne, d'aller, en fait, que le nombril nous sèche. Ensuite de ça, avoir aussi une carrière qui va nous permettre d'arriver au crime organisé ou au crime majeur à ce moment-là, puis d'aller chercher une expertise particulière. Puis par la suite, là, on pourrait devenir agent d'infiltration. Donc, il y a des corps de police, des fois, qui vont prendre leurs nouvelles recrues, ils vont les former, puis ils vont les propulser parce qu'ils ne sont pas connus dans leur région. Parce que, mettons, un petit corps de police, ils vont en profiter à ce moment-là. Mais moi, je considère que c'est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne performeront pas, mais il reste quand même, pour faire une carrière de longue avenue à ce moment-là, l'expertise, l'expérience va nous permettre, entre autres choses, d'éviter beaucoup d'écueils par rapport à ça.
Ouais. Le métier de policier, c'est un métier qui est à risque, là, mais un agent d'infiltration, vous êtes un policier à risque à risque. Comment on fait pour passer d'une gueule de police à une gueule de méchant?
Bien, tout à l'heure, quand je suis rentré, est-ce que j'avais l'air d'une police?
Non.
Non, non, pas du tout.
Bon, c'est ça. Là, c'est sûr, là, j'avais tout un déguisement, là, le déguisement type du motard type à ce moment-là, quelles que soient ses allégeances. Donc, tu sais, je sens le motard pour le commun des mortels, puis pour mes futurs frères criminels que je vais côtoyer. Mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quel habit, n'importe quelle façon d'être, de faire. Il suffit juste de pouvoir adapter ça de bonne façon pour approcher les criminels. Parce que le milieu criminel, ils savent tous qu'il y a des agents d'infiltration. Ils ont vraiment peur de nous autres à ce moment-là. De l'autre côté, ici au Québec comme tel, de façon générale, c'est pas, mettons, comme en Colombie ou différents pays, là, que les policiers ou au Mexique sont complètement là, menacés. Tandis qu'ici, avant de s'en prendre physiquement un policier identifié, mettons, un patrouilleur, quelqu'un du crime organisé, un enquêteur à ce moment-là, ils vont y penser 18 fois. Là. Il y en a qui vont le faire parce qu'il y en a qui n'ont aucune retenue par rapport à ça. C'est des criminels, puis ils confrontent tout le monde, y compris la police.
Oui, puis ceux qui n'ont rien à perdre sont plus dangereux que les autres.
Oui, effectivement. Mais la particularité d'être agent d'infiltration à ce moment-là, c'est que, éventuellement, s'ils savent qu'on est dans la police, bien, en fait, on les a approchés, on a gagné leur confiance parce que, mettons, on prend un trafiquant à ce moment-là de drogue. Lui, il sait qu'entre autres choses, il y a des agents d'infiltration. Donc, s'il y est le moindrement bon dans sa tâche de trafiquant, à ce moment-là, lui, il faut qu'il évite de nous rencontrer puis de nous faire confiance. Puis à partir du moment qu'on réussit à gagner sa confiance, puis il y en a qui sont, c'est vraiment dur. Il y en a, c'est super facile. Mais il y en a d'autres, c'est super dur. À ce moment-là, bien, ils se sentent complètement trahis. Ils vont nous regarder comme quelqu'un du milieu, un snitch ou quelque chose comme ça, là, un délateur ou n'importe quoi. Puis, à ce moment-là, il y a certaines catégories de ces criminels-là que j'ai côtoyés qui n'ont aucune retenue. Là, c'est, on va l'éliminer. Puis, ils oublient l'aspect qu'est-ce qui arrive si tu élimines une police.
Comment vous
comme
êtes...
Mme Boucher dans le temps quand il a décidé de s'en prendre à des agents correctionnels.
Exact. Lui, c'est pas tellement compliqué. Il y avait une gradation là, des agents correctionnels. Après ça, il passait à ce qui était les procureurs, les juges. Ouais. Il y avait hommes politiques et finalement, là, police. Là, il y avait une gradation à faire. Aucune retenue. Eux autres, ils voulaient faire comme on fait, mettons, au Mexique, en Colombie, ces places-là.
Semer la peur.
Oui, semer complètement la peur. Dire, mon organisation, c'est fini, vous ne l'approchez plus, vous allez avoir la paix, on va arrêter de vous tuer. Ouais, c'est pas comme ça que ça marche.
Comment on dit à chérie à maison, chérie, mon nom, c'est plus Yannick, c'est Serge pour les prochaines semaines, prochains mois, puis je t'annonce que les contacts entre toi et moi vont être au minimum.
Ouais, les contacts continuent, la vie continue, sauf que naturellement, comme quand je suis arrivé ici à Québec pendant de longs mois, j'ai été impliqué là, à temps plein dans un ancien regroupement là, de criminels puis de motards à ce moment-là qui étaient ici dans la région de Québec. Ça fait que j'étais avec eux autres, je suis correct. J'ai un certain habillement, certaines choses. Quand je suis avec mon épouse, mes enfants, puis que je vais être dans la région ici de Québec, bien, je ressemble encore à ça au cas que quelqu'un me voit, tu sais, avec ce qui est ma femme puis mes enfants. Les criminels ont une femme, des enfants, des amis, des maîtresses. Tu sais, ils ont une vie plus ou moins normale avec les personnes. Ça fait qu'à ce moment-là, elle est au courant qu'à un moment donné, ça peut arriver que je dise, regarde, hop, là, je viens de tomber dans mon personnage. Puis elle va être juste, tu sais, de toute façon, ma conjointe à moi, c'est être à la maison, puis être tranquille, puis c'est moi le boss, puis elle n'a rien à dire, puis elle veut rien savoir de mes affaires.
Ça, c'est votre personnage de motard.
Ça, c'est mon personnage de motard, parce qu'à la maison, c'est elle qui bosse.
C'est
non, mais je sais vous
c'est
dire
bon
la vérité.
C'est bon de le mentionner, mais oui. Mais avez-vous déjà eu peur pour votre famille ou pour vous? Parce que mine de rien, c'est de les embarquer un peu dans votre job, là.
Ben, c'est sûr que... juste une petite anecdote. À un moment donné, j'étais avec ma famille, j'étais dans un McDonald's, Puis arrive là une montagne de muscles en arrière de moi, puis qui me donne un coup de plateau en arrière de la tête. C'est que je me retourne, puis là, je me lève, puis je dis, puis là, je le confronte vraiment, là, puis, tu sais, ça monte, là, la chicane. Puis là, je vois à un moment donné, oups, ma femme est blanche, puis mon petit gars, à ce moment-là, lui, il regarde ça, puis, hein, papa, il va se battre avec le monstre qui est là, tu sais, papa, il fait du karaté, mais, hey, puis là, il me regarde, puis à ce moment-là, la montagne de muscles dépose son plateau, puis on se fait une terrible accolade. C'est un autre agent double qui est avec moi dans l'opération que je fais présentement. Puis c'est un hasard qu'on se rencontre. Puis là, juste pour niaiser, il est venu me donner un coup de plateau comme ça. Puis là, sur le coup sec, ben, tu sais, tu rembarques dans ton personnage, puis là, tu le confondes, puis lui a fait la même chose. Là, ma femme est à mauve. Mon petit gars, depuis ce temps-là, tu sais, il dit « Hey, papa, c'est un héros, tu sais, les... Bon, c'est ça.
Comment on... Parce que là, vous êtes policier, vous devenez agent infiltrateur avec des criminels. Comment on respecte la loi quand même en jouant le personnage d'un criminel tout en étant policier? Vous n'avez pas le droit de commettre des crimes? Vous n'avez pas le droit de commettre des larcins pour prouver que vous êtes un criminel? Prouver que vous n'êtes pas un policier?
C'est justement... C'est pas... Quand même, on respecte la loi. Nous devons respecter la loi à ce moment-là.
Ouais.
Cependant, naturellement, c'est on pourrait éventuellement, il y a l'article 25.1 du Code criminel qui, c'est tout encadré, mais qui nous autorise à faire des crimes au Code criminel, en autant que ce ne soit pas des crimes de violence, entre autres choses. Et à ce moment-là, comme je dis, il y a tout un enrobage, il y a toute une structure pour s'assurer que c'est fait dans l'intérêt de la justice, mais par rapport à ce que la Cour suprême attend d'un policier infiltré aussi. C'est-à-dire que je donne juste un exemple, là. À un moment donné, on est ici, on est à Québec, il y a un trafiquant, ça fait plusieurs fois que la GRC l'approche avec des agents d'infiltration, ça ne marche pas. La police de Québec fait la même chose, Sûreté du Québec fait la même chose, ça ne marche jamais. Il y a vraiment une tête là, de criminel à nous détecter ou du moins pas nous faire confiance à ce moment-là. C'est qu'en définitive, ils font appel à moi. C'est une de mes spécialités. Quand ça ne marche pas, je trouve quelque chose. T'sais. On appelle John Roderick Allman, puis il débarque, puis il réussit à trouver quelque chose éventuellement. Et à ce moment-là, lui, c'est un tagueur. Hey,
c'est quoi un tagueur?
Ouais, celui qui fait des dessins sur les murs là, avec des cannes de peinture. Ça fait qu'on le met sous surveillance le soir. On voit où il prépare sa future murale, parce que c'est vraiment beau ce qu'il fait. Puis le lendemain matin, il est encore sur filature. Moi, je m'en vais où il se trouve, puis on pense qu'il va arriver là. Puis effectivement, il arrive, mais là, je suis en train, moi, de barbouiller, tu sais, faire des petits tags innocents, des petits bonhommes sur sa murale. Là, la chicane pogne. Puis finalement, bien là, il décide de me montrer comment ça se fait. Je passe toute la journée avec lui. Puis là, ben, on s'en va souper, puis là, on s'en va prendre un petit verre. Puis là, après ça, ben, lui a un attrait qui me répugne un peu, mais on s'en va aux danseuses, puis on sympathise. Puis deux jours après, ben, il tombe parce qu'il vient de me vendre une quantité importante de cocaïne à ce moment-là, son nouvel meilleur élève, ami. Puis lui, voilà, aussi simple que ça.
Moi, si je dis à ma blonde, chérie, j'ai été obligé d'aller aux danseuses, elle me croira pas, là.
Bien, moi, assez que je déteste ça. Ça fait que, assez que c'est une de mes tâches que je suis obligé d'accepter.
C'est pas trippant, là.
Ouais. Ben, vraiment, là.
Parce que moi, c'est un don de vous que vous avez fait, mais votre conjointe aussi a fait un don de son conjoint puis de sa vie aussi. Le stress qu'elle devait avoir devait être hallucinant.
Bien, le stress, il y a une chose qui est sûre, c'est que la plupart de mes aventures n'est pas au courant. Là, on va peut-être en découvrir pas mal plus aujourd'hui pour justement pas l'inquiéter. Mais elle savait que j'avais un métier à haut risque. Elle savait, de par ce que je suis moi puisque mon organisation attendait de moi, je suis quelqu'un qui pousse très loin, mais toujours en contrôle selon moi. Je pousse très, très loin les infiltrations pour arriver à mes fins. C'est que des fois, j'ai côtoyé des individus qu'on ne devrait jamais envoyer des agents d'infiltration, mais on le fait pareil, tu sais. Compte tenu de qui on est, du degré de risque qu'on prend, à un moment donné, côtoyer quelqu'un qui a tiré sur la police, quelqu'un qui a fait des meurtres, quelqu'un qui a fait du pénitencier, puis là, tu vas approcher cette personne-là, bien, c'est super dangereux. Comme présentement, dans le milieu criminel, comme policier infiltré, tu pourrais être avec quelqu'un des groupes criminels qui œuvrent présentement. On les connaît tous, les Hells, le Blood Family, la mafia, etc., etc., les indépendants. Tu pourrais être assis à une table avec eux autres, puis il y a une mitraille qui se fait, puis tu meurs là, puis t'as rien à voir avec ça, t'es une victime collatérale, mais c'est là. Donc, il y a plein de dangers potentiels. Mais c'est ça qui fait la beauté d'être agent d'infiltration au niveau, c'est de jouer avec ce danger potentiel-là. On vient s'habituer vite à ça, là. C'est comme une adrénaline supplémentaire. Tu sais, pour juste arrêter des bandits, c'est... Tu t'infiles, tu joues avec ça, tu brises leurs différentes façades qu'ils ont, les murs qui sont faits pour éviter ça. C'est tout un jeu psychologique qui est extraordinaire à vivre.
On dirait qu'on a une image de film un peu. Là. Fait que vous autres, vous avez plein de costumes dans votre garde-robe, là, puis là, vous faites des personnages en longueur de journée, puis on ne voit pas toujours le côté dangereux qui vient avec, mais on dirait que c'est l'image que j'ai, du moins quand moi, je pense à un agent d'infiltration. Comment vous êtes formé? Parce que mine de rien, il faut gérer la pression de mentir, il faut gérer la peur, probablement, il faut gérer mille et un comportements naturel de l'humain, comment on vous forme?
Bien, quand j'ai commencé, à ce moment-là, je m'en vais au crime organisé. Je vais être enquêteur là. La première journée que j'ai rentré au crime organisé, donc je viens de faire 7 ans de patrouille, j'ai travaillé énormément au niveau de la patrouille sur la drogue. Énormément, là. C'est un de mes attraits. Puis, éventuellement, je veux m'en aller au crime organisé, faire ma carrière là comme enquêteur à tout le moins. Puis je veux faire de l'infiltration aussi parce que je connais plein d'agents infiltrés, d'infiltration à la Sûreté du Québec qui sont au crime organisé. Donc, la première journée, moi, quand je suis arrivé, ils ont dit, « Toi, John, tu t'en vas faire de l'infiltration. Tu sais comment ça marche, la dope? Go! » Oui, mais tu sais, j'ai pas
mais
de cours, j'ai rien.
C'est ça.
Oui, j'ai rien, j'ai pas de cours. Mais on dit, « Garde, t'es John. t'es capable, puis go, tu y vas. » Puis oui, j'y ai été. C'est sûr que ce n'est pas une très bonne façon de commencer parce qu'on manque énormément d'expérience, d'expertise pour éviter des écueils à un moment donné puis pour performer. Mais d'un autre côté, peut-être j'avais ces qualités-là aussi en moi là, qu'on recherche. Mais présentement, il y a tout un processus de sélection qui est fait, qui est très, très... très, très élaboré.
Mais y a-tu une équipe, tu sais, pour les costumes, les personnes? Tu sais, là, je sais, j'ai l'air tellement de non à poser ces questions-là.
Non,
mais
ça se pose.
Mais non, mais il y a probablement plein de monde qui ne savent pas. Mais tu sais, on voit des fois des vidéos sur Internet de fausses barbes, faux cheveux, faux toutes sortes d'affaires. C'est-tu ça ou on n'est vraiment pas là?
Non, mais...
D'habitude, John, il y a des cheveux.
Oui. Imagine.
Oui. Ben, j'en ai perdu avec les années.
Des grands cheveux longs, d'habitude. Oui.
Ben, je vous dirais, j'ai déjà eu une barbe là, qui va vers le poitrail, vraiment une grosse, grosse barbe, là, la queue de cheval dans le dos, ou un afro, des affaires comme ça, mais des fois, pas de cheveux pantoute, tu sais. Mais là, c'est sûr que ça prend du temps à repousser. Mais ça, c'est pour l'apparence, c'est un peu comme tel. Le reste, ben, j'ai couru toute ma vie d'agent d'infiltration, les FIPRI, entre autres choses, pour acheter.
C'est toi qui t'occupe de ça.
Oui, oui, c'est moi qui m'occupe de ça à ce moment-là. On n'est pas comme Radio-Canada. Là,
grosse équipe, là.
Puis tu rentres, puis il est là. Bien que quand j'ai commencé, il y avait un agent d'infiltration que lui avait fait un cours en maquillage, entre autres choses, pour Radio-Canada, justement. Puis après ça, il était rentré dans la police. C'est que lui, il était capable de se créer des... changer vraiment sa figure, puis sa physionomie, puis il se mettait des... tu sais, des fausses dents, des prothèses, des choses comme ça. Tandis que moi, non, c'est juste, je change, tu sais, si je me coupe un peu la barbe, si je l'autre complètement, c'est que j'ai juste la moustache, la façon de se peigner, la façon de faire la couette de cheveux, etc. Déjà là, ça va aider.
Au niveau psychologique, est-ce qu'on se perd des fois? Est-ce qu'on se pose la question, je suis qui vraiment quand on côtoie trop ces individus-là qui pensent constamment sale?
C'est une excellente question. Moi, jamais. Jamais, jamais, là, j'ai jamais ressenti là, d'affinité. Ça a l'air le fun. Ce qui se fait là, c'est absolument pas. Dans mon rôle d'agent d'infiltration, c'est, je pense, une des meilleures façons d'aller justement arrêter ceux qui vont œuvrer dans le crime organisé. De l'autre côté, j'ai eu, entre autres choses, un de mes partenaires, il était vraiment excellent, mais à un moment donné... La vie qui menait en infiltration, pour lui, est devenue comme sa vraie vie. Puis quand il décrochait après ça, ça n'avait comme plus d'intérêt. C'était comme si c'était plus ça. Il y a eu des problèmes vraiment majeurs, là. C'est sûr qu'il devait sûrement avoir une faiblesse psychologique avant
mais
ça.
Mais avez-vous
là.
Une aide pour ça?
Maintenant, oui. Dans le temps, non.
OK.
Fait que... Parce que c'est un mode de vie pour eux qui peut être attrayant. Là. Il n'y a plus de règles, il y a beaucoup d'argent. Ils sont constamment en train de s'amuser, être avec les gars, et ils s'amusent. À un moment donné, tu dis, t'as peur, là, ces gars-là sont en train de devenir mes chums, là, mais c'est pas mes chums. Là. Moi, je suis un policier. Là. Faut, à un moment donné, il faut que je continue de ramasser des preuves. Faut que je mette les choses en place que je voulais mettre. Fait que, j'avais déjà entendu que des fois, les agents d'infiltration
se perdaient
parce que là, ils devenaient amis avec quelqu'un avec qui il serait jamais devenu ami s'il n'avait pas fait cette job-là. T'sais. C'est le danger qui peut guetter certains agents d'infiltration.
C'est juste en crime organisé, les agents d'infiltration, ou il y a d'autres cas dans lesquels vous allez en faire?
Non, mais les agents d'infiltration vont servir, entre autres choses, à l'antiterrorisme pour approcher ou pour infiltrer, mettons, des groupes qui vont être à risque de faire une perturbance, mettre une bombe, des choses comme ça. C'est que l'infiltration, quand je dis aussi en crime organisé, là, c'est de tout. Là. Ça peut être un réseau de fraudeurs téléphoniques, ça peut être un réseau de prostitution. Tu te présentes puis tu te fais engager par le réseau de prostitution pour être chauffeur des prostituées qui vont se déplacer. Puis là, ben, tu vas faire affaire avec les pimes puis tout. Donc, tu vas aller chercher une preuve directement à l'intérieur d'eux autres, t'es le chauffeur. Ça fait que tu participes à ça, mais comme je dis, là, tu peux être autorisé à faire, entre guillemets, ce crime-là, de participer là, à un réseau de prostitution à ce moment-là, mais comme chauffeur, c'est vraiment le fun.
John Roderick Allman, est-ce que vous avez lu le livre d'Alex Kane?
Oui.
Sa plus grande peur, c'était de parler pendant son sommeil.
Ouais. Moi, je couche pas avec les criminels, donc aucun problème.
Ouais. Mais lui, c'est parce que des fois, il était comme dans d'autres pays, de ce qu'on comprenait là, avec son livre. Puis des fois, il devait dormir dans les mêmes endroits que les autres criminels. Puis sa peur, parce que sa vraie conjointe lui avait dit « C'est parce que tu parles beaucoup quand tu dors. » Fait que là, quand il était en mission d'infiltration, il se disait « Ouais, il faut que je dorme aussi, mais il faut pas que je parle. » Ça doit être assez complexe. Vous apprenez une nouvelle date de naissance? Vous apprenez une nouvelle vie? Ça vous arrivait-tu pendant toutes ces années-là où vous avez fait de l'infiltration, de mélanger la personnalité que vous êtes vraiment versus le personnage que vous étiez créé dans la police?
Non, ça m'est jamais arrivé, mais c'est sûr que il y a une part de vérité dans notre personnage là, qu'on va présenter à ce moment-là, entre autres choses. C'est, tu ne peux pas prétendre avoir 20 ans de plus que ce que t'as. Tu prends l'âge que tu as à ce moment-là. Tu vas aller chercher des choses particulières que tu connais, mettons, dans une région, puis tu vas former ton personnage, mais tu ne déclares jamais d'où tu viens comme tel. Et on s'en va de cette façon-là. Puis la beauté de la chose, mais je vous dirais, une des qualités primordiales de l'agent d'infiltration, c'est de se souvenir de tous les mensonges qu'il va faire, parce que toute notre vie qu'on se présente devant les criminels, si on a à l'exposer, bien là, il faut qu'elle se tienne, puis il ne faut pas se tromper dans nos mensonges, parce qu'il y en a qui sont vraiment habiles, de dire « Hey, c'est pas ça que tu as dit, puis hein, tu viens de où? » Puis juste ça peut faire que le doute va s'installer, puis l'opération va tomber à ce moment-là. Ça fait que...
Quand vous êtes dans votre personnage d'agent d'infiltration, puis vous croisez un policier, moi, je ne suis pas policier, là, mais si je vous avais vu dans un véhicule avec la tête que vous aviez tantôt quand vous êtes arrivé en studio, j'aurais peut-être demandé votre permis de conduire. Qu'est-ce qui arrive quand des policiers arrivent, puis ils croisent John sur le passage, puis ils disent « Bonjour, monsieur, venez ici. » Ils vous connaissent pas, eux. Ils connaissent pas votre métier. Là.
Non, effectivement. Puis naturellement, à pratiquement 100 %, on ne doit pas se déclarer à ce moment-là. Fait qu'il faut jouer notre personnage, puis on laisse passer la vérification policière. Cependant, ça peut arriver à un moment donné, surtout comme c'était avant, nos identités, j'aborderai pas trop dans ce sens-là, mais nos identités étaient vraiment légères. Donc, ça m'est arrivé à un moment donné de me faire intercepter en pleine nuit. Je suis tout seul à ce moment-là. J'ai fini mon ouvrage pour cette nuit-là d'infiltration. Je me fais intercepter par deux bonnes polices là, à ce moment-là. T'sais, ils m'ont vu passer, ils ont vu le char, ils ont vu la tête que j'avais à l'heure qu'il était. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire à ce moment-là, juste s'assurer que c'est un bon citoyen et tout va bien à ce moment-là, la sécurité publique. Ils m'ont intercepté. Puis là, ça a été fort long sur le bord du chemin. Puis là, je leur expliquais pourquoi ma plaque fonctionnait pas avec le véhicule, puis pourquoi mon permis de conduire, selon eux autres, c'était pas un bon permis de conduire.
Parce Est-ce que vous disiez la vérité?
Ben non, je mentais complètement. Okay, là, c'est, la plaque, elle n'a pas avec le véhicule. Puis c'est sûr que le permis de conduire que j'avais là ne correspondait pas à moi parce que j'avais pas de dossier, j'avais rien. Un gars comme moi, il faut qu'il y ait un dossier. C'est impossible qu'il n'y ait pas de dossier ou qu'il ne soit pas relié ou qu'on n'ait pas un avis de guet ou quelque chose comme ça. Fait que ça a duré fort longtemps. Ils ont remorqué mon char. Ils m'ont rentré à ce moment-là au poste de police parce qu'il y avait des suspicions. Puis il y avait vraiment raison d'avoir des suspicions que le véhicule, entre autres choses, était volé. Moi, ils pensaient que j'étais à tout le moins recherché puis que j'étais le voleur du véhicule. Puis là, bien, rendu au poste de police, là, j'ai pas eu le choix de m'identifier. T'sais, je veux pas m'en aller en prison. Je veux pas comparaître le lendemain matin. C'est que là, j'ai appelé là, mon contrôleur, celui qui s'occupe de moi sur cette opération-là. C'est qu'il a dit à la police, bien, regarde, c'est un policier infiltré. Puis encore là, les patrouilleurs le croyaient pas. Ils pensaient que j'étais un informateur de police. Il y a bien de la misère avec ça, de par ce que je dégageais.
Mais vous avez pas un... Là, c'est encore là, c'est moi et mes images de film, mais vous avez pas un badge.
Ben non, il peut pas.
Vous avez pas comme quelque chose que vous pouvez comme prouver ou... tu sais, il y a des logiciels, j'imagine, dans la police.
Bien, c'est arrivé à quelques... Bien, un policier a une badge là, pour une plaque d'identité. Là. Tout policier a ça. Mais en infiltration, on ne fait pas ça. Moi, c'était m'est arrivé à quelques reprises de me faire déshabiller complètement à nu là, pour voir si j'avais un micro, entre autres choses. Tu sais, pour pouvoir jeter armé, puis etc. C'est, tu peux pas être tatoué Sûreté du Québec avec ton numéro matricule puis la date d'entrée comme les Hells font à ce moment-là. Ça ne serait pas une bonne idée. C'est que non, on n'a absolument rien. Tu sais, le soir, j'ai été intercepté par les policiers que je parlais auparavant. Là. J'ai rien pour m'identifier. Puis d'ailleurs, quand je leur ai dit, garde, arrêtez, là, je suis de la Sûreté du Québec, je suis policier infiltré, bien là, ils trouvaient que je commençais à les ridiculiser pas mal, puis tu vas arrêter de rire de nous autres. Fait que là, on va arrêter ça, là.
OK. Hey, c'est particulier. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie?
Pour ma vie, peur comme telle, non, parce que j'ai toujours senti que j'avais le contrôle de la situation, même si ce n'était pas vrai. Mais à quelques reprises, j'ai failli y passer. J'ai failli me faire tuer là, sur des opérations policières.
Ah oh oui, hein? Puis celle qui vous a fait le plus... celle qui vous a fait le plus triper, mettons, dans toutes vos infiltrations en 18 ans de carrière?
Hé, hey, bateau, si vous me donnez un petit 3-4 heures, je vais vous raconter ça. Hé,
mais mon Dieu, je voudrais qu'on prenne 3-4 heures.
Il y a plein d'opérations qui m'ont fait triper, mais... Je vous dirais, j'en ai une à un moment donné, là, c'était un défi impossible. Là. C'est quelqu'un du crime organisé à haut niveau, quelqu'un qui a fait des meurtres, quelqu'un qui a fait 15 ans de prison là, ferme, quelqu'un qui s'est implanté en région, quelqu'un qui est capable de se confronter aux Hells Angels puis les sortir de sa région à ce moment-là, de par ce qu'il est lui, de ses affinités, de son groupe, etc., etc. Et j'ai eu comme mission, à ce moment-là, impossible de, justement, le trafiquer. Puis ça m'a pris 4 mois et demi, là, à temps plein, pratiquement, pour réussir à casser ses défenses, parce que même dans le milieu où je me trouvais, dans son milieu à lui, là, il y avait des bars, ces choses-là, il contrôlait plein de choses. Et mon surnom, c'était le narc. Parce que lui avait dit à tout le monde que j'étais un gars des narcotiques, là, c'est un agent d'infiltration. Puis à un moment donné, ceux qui l'entouraient, à ce moment-là, sont venus à dire, « Ben non, John, c'est pas un arc, voyons donc. T'sais, pas John à ce moment-là. » Mais le surnom me restait. Ça fait que quand j'arrivais quelque part, puis il y en a un qui me disait, « Hey, le narc, viens t'asseoir avec nous autres. » Tout le monde figeait, tu sais. Dans le bar, finalement, ben, tout le monde trouvait... C'était comme un inside joke.
Tout le monde pensait que c'était du sarcasme.
Oui, mais lui, pareil. Oui, c'est ça. Mais lui, personnellement, il y avait comme un septième sens là, qui lui disait n'aie pas confiance en John Rodrigue, n'aie pas confiance en lui, n'aie pas confiance en lui, jusqu'à temps qu'un soir, sur une phrase vraiment banale, là, puis j'essayais de casser ses défenses, puis là, ça fait 4 mois et demi que j'étais avec, là, il faut faire quelque chose, ça coûte cher ces opérations-là aussi, ouais. Puis c'est long. Puis juste sur une phrase, à un moment donné, il dit c'est beau, demain on fait, garde. On est parti pour une transaction super importante à ce moment-là.
Est-ce que vous êtes constamment en équipe? Y a-t-il des gens qui vous suivent de loin et qui connaissent exactement où vous êtes?
je vais, mettons, me garder une gêne par rapport à ça. C'est sûr que on a ce qu'on appelle du backup. Là, on a des agents de crime organisé ou de crime majeur ou de l'antiterroriste, etc. On a une équipe en arrière de nous autres, entre guillemets. Mais ça m'est arrivé à un moment donné avec un partenaire. On est lâché lousse complètement dans le milieu criminel, puis à haut niveau, là, un milieu super dangereux à ce moment-là. Puis on n'a aucun contact à part à chaque 24 heures avec notre responsable.
C'est long, 24 heures, là.
C'est énorme parce que ça peut faire 23h59 que tu es mort à ce moment-là. Puis là, tu sais, oups, tu n'es pas là. Ça fait qu'habituellement, c'est pas ça. Puis, le backup, ça ne veut pas dire qu'ils sont collés à côté de toi. Il y a différentes techniques, différentes choses. Mais dans ce milieu-là, avec mon partenaire, on était complètement, pendant des semaines de temps, complètement laissés lousse. Puis c'est là qu'on a failli mourir, cette opération-là.
Êtes-vous protégé après? Parce que, tu sais, on parlait un peu plus tôt, là, tu sais, à un moment donné, je veux dire, le but, c'est de faire enfermer du monde, puis le but, c'est de trouver des criminels. Puis j'imagine que quand ces gens-là se sentent trahis, ils doivent être fâchés à quelque part, là. Avec 18 ans comme agent d'infiltration, j'imagine qu'il y a des gens, peut-être, qui vous en veulent encore d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes protégé quand vous terminez votre carrière?
Protégé comme tel, non. Je dirais rétrospectivement, parce que le temps a passé, mais dans toute la carrière que j'ai faite, les 18 ans, il y en a sûrement un qui a encore une crotte sur le cœur importante contre moi pour différentes raisons à ce moment-là. Lui, il a plongé parce qu'il m'a vraiment fait confiance. Puis j'ai été probablement le seul de toute sa vie de criminel à qui il a fait confiance, à part, mettons, son épouse, là. Puis ce qui était en haut de lui dans la famille italienne où il se trouvait. Puis lui, je suis persuadé qu'il m'en veut énormément. Les autres, à un moment donné, très souvent, c'est que, rétrospectivement, ils s'aperçoivent qu'ils ont été, dans le fond, niaiseux de me faire confiance. Mmh. Tu sais, quand ils regardent ça, « Attends, j'aurais dû le détecter tout. »
Mais avez-vous de l'empathie? C'est une drôle de question, je sais, mais en même temps, tu développes des liens avec ces gens-là. On est humain, là. Tu sais, on regarde des films, des fois, puis on s'attache à des criminels dans une série qu'on regarde, là.
L'empathie, jamais. La sympathie, absolument pas. L'empathie, du tout. Celui que je viens de vous parler, lui, il voyait la vie exactement comme moi, là, ses enfants, là, dans les bonnes écoles. On se paye des vacances, on fait des bonnes bouffes, on aime les mêmes musiques, etc., etc. Il y avait tout, sauf que c'est un criminel qui vend de la drogue à ce moment-là. Puis on avait souvent des conversations, puis il dit « Regarde, mes enfants, jamais. » Mais c'est payant pour nous autres. Fait qu'on le fait à ce moment-là, mais nos enfants, jamais. Mm. Les enfants des autres, on s'en fout éperdument. C'est-à-dire que j'ai aucune empathie pour ce personnage-là. Mais le restant de sa vie, ôter le fait qu'il était un criminel, là, ça aurait été mon meilleur ami, c'est sûr et certain. On aurait été ensemble en vacances, puis on faisait plein de choses ensemble. Wow. À ce
vous avez côtoyé les pires criminels du Québec durant vos missions. Vous avez été pendant 18 ans agent d'infiltration. C'est-tu facile de faire confiance aux gens quand on est dans notre vraie vie?
Oui, c'est un problème. Je n'ai pas de misère avec ça concernant ça. T'sais.
Est-ce que vous êtes capable de sortir de ce moment-là encore aujourd'hui? Parce que là, ça fait plusieurs années, mais est-ce que, je ne sais pas, quand vous êtes dans un restaurant, vous êtes constamment à l'affût de ce qui peut se passer, vous êtes plus attentif que les autres autour qui sont attablés, vous êtes toujours le dos face au mur?
Dos face au mur, on entend ça souvent. Moi, dans ma vie d'agent infiltré, c'est n'importe où dans le bar. C'est sûr que dos au mur, c'est là qu'on se protège le plus. Il y a plein de criminels qui sont toujours dos au mur pour être sûr qu'il n'y a personne qui va leur arriver dans le dos. Mais c'est la façon d'être à ce moment-là. Puis je vous dirais, dans les premières années que j'ai pris ma retraite, j'avais les réflexes, là, tu sais. Quand je m'en allais chez nous, je ne prends pas toujours les mêmes chemins. Je suis toujours en train de scanner. Ma femme venait bleue, là. À un moment donné, on a fait un voyage aux États-Unis. Elle dit, tu me fatigues, quoi? Elle dit, arrête de regarder en arrière. Elle dit, 30 secondes, tu regardes. Oui, je sais, je regarde qu'est-ce qui me suit. On est aux États-Unis. Oui, mais... Puis là, tu sais, j'essaie de reprendre la route, puis... Hey, tu me tapes ses nerfs. Arrête de regarder en arrière. Ben, je suis pas capable. C'est un réflexe. Je veux savoir. Tu sais, je sais qui me suit. Je sais, oups, ce véhicule-là, ça fait donc...
Il y a trois fois, je le crois.
Tu sais, ouais, des choses comme ça, où il me suit depuis un grand bout de temps, puis j'ai accéléré, j'ai décéléré, puis il fait la même chose. C'est des hasards, là, tu sais. Mais tu regardes ça. Maintenant, absolument plus. Là, ça me... Ben, mettons, je suis rendu aux minutes et demie, là, peut-être. Ouais. Là.
Quand vous étiez en cours, c'est le moment comme fatidique où vous rencontrez l'individu pour la dernière fois.
J'espère de plus le revoir.
Y a-t-il un stress qui vient avec ce moment-là? Parce que là, vous devez dire la vérité, vous devez donner les éléments de preuve, vous devez dire ce que vous avez fait, quelle façon vous avez gagné sa confiance. Là, surtout qu'ils vont vous remettre en doute de l'autre bord parce qu'ils vont dire « Oui, mais là, John, toi, t'as fait telle affaire, tu sais, t'es un criminel. » C'est-tu un moment où vous passeriez de ce moment-là?
Non, c'est un moment que je recherche. J'adore aller me confronter à la cour avec, entre autres choses, l'avocat de la défense.
Ouais.
J'adore déposer cette preuve-là devant un juge qui, garde, va, je dirais à 100 %. Est-ce que je les ai toujours faites à 100 % Non, mais j'en ai très peu perdu parce que c'était fait de bonne façon, puis on a eu l'intelligence de bien montrer la preuve à ce moment-là. Pas juste moi, aussi les équipes qui m'entourent, les enquêteurs qui sont là, ils vont chercher une preuve supplémentaire. C'est pas juste moi, là. Bien que tout est sur mes épaules très souvent, mais on va chercher une preuve supplémentaire pour défaire le réseau, puis ces choses-là, ou défaire le trafiquant. Moi, j'adore aller me confronter à eux autres. Puis,
est-ce que vous le regardez dans les yeux?
Oui, c'est malsain, là, mais...
Non, mais c'est le fruit du travail.
Non, mais je suis vraiment fier de moi à ce moment-là. Puis il y en a, là, qui, quand ils me regardent, là, la tête, là, puis je le vois, qu'ils disent « Hey, que t'étais habile. Hey, tabarnak, comment ça, je t'ai pas vu venir? » Puis, wow, tu sais, ils font presque un pouce en l'air en voulant dire « Si je te revois, par exemple, je vais te mettre mon poing dans la face, là, tu sais. » Mais c'est vraiment ça, par rapport à ça. J'adore cette... c'est comme l'apothéose de tout ce que j'ai fait à ce moment-là, t'sais. T'sais, mon but, c'est de les arrêter. Puis, une des meilleures façons, à travers toutes les sortes d'enquêtes qu'on peut faire, entre autres à la Sûreté du Québec, là, l'écoute électronique, etc., l'infiltration, c'est comme l'apothéose par rapport à ça. J'adore ça.
Comment ça commence? Parce que on dirait qu'ils ne sont pas niaiseux. T'sais, ce monde-là sont rendus criminels au placé parce que c'est du monde intelligent, visiblement. Là, ils savent comment faire les choses. Tu sais, je veux dire, John qui arrive de nulle part, c'est déjà louche en partant. Comment ça commence, les infiltrations?
Ouais, je vous dirais, là, il y a une chose que je retiens de ce que vous avez dit, là. C'est pas juste les têtes dirigeantes qui sont intelligentes. Ça peut être le tout petit vendeur qui est dans le parc, puis que lui, là, il est super dur à approcher. Puis pour l'arrêter, oui, là, il vend, là, il va avoir un petit peu de drogue, mais pour le prendre avec une quantité appréciable, avec un travail d'enquête normal, tu ne trouveras jamais où qu'il cache, puis il va se déplacer, puis pour le suivre. Il y en a qui sont super compliqués, là. C'est pas juste les têtes dirigeantes. Bon, ensuite de ça, on arrive de quelque part. Je vous donne un exemple que j'ai fait pendant des années de temps qui passait bien. Je ne sais pas si ça pourrait encore fonctionner. Je m'en vais en vacances au personnel en Floride. Puis là, dans un marché, comme je dis, je fais beaucoup de marchés aux puces. Je me cherchais un côte de cuir particulier. Puis à un moment donné, je suis revenu de là avec des chaînes puis des bracelets. Tu sais, t'achètes ça à 75 cents, une pièce et 25 à ce moment-là. Puis j'avais tout un assortiment. Puis j'avais un beau présentoir qu'on pouvait rouler. C'est que quand j'arrivais, mettons, puis la plupart du temps, on va dans des bars. Tu sais, c'est là qu'on arrive. Fait que j'arrivais, puis moi, je suis vendeur ambulant. Je vends ça. Fait que, regarde, John, tu sais, ah, tu veux... Puis là, bien, naturellement, là... Entre autres choses, si tu es un bar de danseuse, bien, les danseuses viennent t'acheter. Donc, si tu es avec les danseuses, déjà là, tu as une apparence quelconque, etc. Puis à un moment donné, bien, j'ai besoin d'un service. Je me cherche un once de coke. Toujours quelqu'un qui va être serviable. Ils sont toujours serviables à ce moment-là pour faire de l'argent. Mais là, c'est John, le vendeur de bijoux. C'est pas un agent d'infiltration, c'est John. C'est John. Hey, avec bon gars, puis tout. Puis là, il a besoin d'un service. Ça pourrait être aussi simple, entre guillemets, que ça, bien que c'est complexe, là.
Oh, oui. Comment on choisit son nom d'agent infiltrateur? Ça, ça serait mon moment préféré. Bond, James Bond.
On est vraiment dans des films, hein, John. Ouais. On s'excuse.
On choisit comment son nom d'infiltrateur?
Bien, le nom d'infiltrateur, on va le prendre avec un nom qui va nous être familier. Comment? Tu sais, si je m'appelle Paul dans ma vraie vie, puis que je prends, mettons, John, ben à ce moment-là, quand quelqu'un va dire John, je ne suis pas prêt à réagir à ça, tu sais. Si je dis « Ah, Yann, vous allez réagir, vous allez vous retourner », mais ouais. Je dis « Hey, Paul, peut-être que vous n'aurez pas... » Tu sais, c'est ça, il faut se bâtir avec des choses qu'on connaît, des choses crédibles, des choses qui vont nous faire réagir. On a un fond de vérité. Après ça, tout le reste vient de fauner complètement.
Ouais.
Complètement, là.
Êtes-vous heureux de la carrière que vous avez connue dans police?
Moi, j'ai eu une carrière, monsieur, là, qui était exceptionnelle. Puis pas juste au niveau de l'infiltration, au niveau des enquêtes de crimes organisés au niveau de tout ce qui est du renseignement que j'ai fait. J'ai participé au groupe Carcajou, j'ai participé au sommet des Amériques, j'ai fait de l'antiterrorisme, entre autres choses, quand le World Trade Center a tombé, ils ont fait des task forces à ce moment-là, des regroupements. J'ai travaillé avec le DIA, la police de l'Ontario, puis même sa patrouille, là, ils m'ont laissé les coudées franches pour faire beaucoup d'enquêtes de drogue à ce moment-là qui ont vraiment porté fruit. J'ai eu une carrière exceptionnelle.
Qu'est-ce qui vous a poussé à la retraite? On dirait, c'est une drôle de question, mais des fois, souvent, on remarque que les policiers vont prendre une retraite quand même jeune par tout ce qu'ils ont vécu, évidemment. Là. Mais vous avez l'air tellement passionné par ça. Pourquoi pas avoir continué plus longtemps?
Bien, j'étais pour continuer plus longtemps, sauf que mon horizon professionnel à ce moment-là, ça n'allait pas dans le sens où je voulais aller. Donc, je suis parti. J'ai vu plein de policiers qui ont quitté les corps policiers, là, les différents corps policiers, puis ils sont partis avec une crotte sur le cœur. Moi, ça ne me le disait pas. Mon horizon était bloqué. Ouais. Je suis parti à ce moment-là. J'étais prêt à faire encore au moins un gros 5 ans, certain.
Ah oui, hein?
Puis là, je me suis dit à un moment donné, « Hey, j'ai un fonds de pension. Bon. »
Mais vous avez une belle carrière florissante. Puis moi, ce qui me marque à chaque fois que... Bon, il y avait le 11 novembre, il y a de ça quelques jours, tu sais. Ce que les gars me disent, c'est ce qui nous manque, c'est la confrérie. Tu sais, puis il y a des regroupements maintenant. Ces gars-là se rencontrent. Ce que je comprends, c'est un peu la même affaire pour des polices, des anciennes polices. Vous continuez de vous côtoyer?
Je vous dirais, avec certains oui. Mais moi, je suis quelqu'un qui... J'ai sorti de la police. Là, je fais une autre vie. C'est que... Ça me manque pas. T'sais, j'ai vraiment aimé ça. On me dirait, hey, veux-tu recommencer de l'infiltration sûrement? De la patrouille? Non, je suis trop âgé par rapport à ça. Maux de dos, des choses.
Faudrait changer
ça.
De linge.
Oui, aussi. Faudrait que je prenne une bonne douche parce que il me semble que ça sent beaucoup aujourd'hui. Mais c'est carrément ça. J'ai passé à une autre étape. Là, comme quand j'ai arrêté de faire de l'infiltration, j'ai passé à une autre étape. Puis c'est tout. Là, c'est, ouais. C'est comme ça dans ma vie. Oui, mais il y en a beaucoup. Effectivement, la confrérie était super importante. Ouais.
Question pertinente d'un auditeur que j'ai eu tantôt, puis on va terminer avec ça. C'est Carl qui nous pose cette question-là. Est-ce que lorsqu'on est un agent infiltré, on doit prouver qu'on est capable de boire autant que les autres, de prendre de la drogue autant que les autres? Tu sais, vous avez dit que, de par la loi, quand vous êtes un infiltré, vous pouvez commettre des petits larcins, mais les crimes sur la personne, jamais. Y a-t-il des choses qu'on vous demande, exemple, John, tu veux-tu une ligne de coke? C'est non.
C'est non. C'est de la drogue, c'est non. C'est systématiquement là. Puis je vous dirais que c'est ça, une des choses compliquées, c'est de refuser de prendre de la drogue. Pour toutes sortes de raisons, entre autres choses, si vous êtes drogué ou si vous êtes en état d'ébriété, pour la preuve, c'est catastrophique. Mais si on prend juste pour la drogue à ce moment-là, avec tout ce qui passe, ne serait-ce que comme cochonnerie, moi, je vais m'envoyer ça dans le nez ou je vais m'envoyer ça dans les veines. Bien non, c'est sûr. Mais ça, c'est compliqué à faire accepter. Mais moi, une de mes forces, c'était justement contrebalancer ça. J'ai jamais pris de drogue de ma vie, à part ce que le dentiste m'a donné ou le médecin pour m'endormir à sa table d'opération. Ça, c'est des bonnes drogues.
Hein? C'est vrai, vous avez raison.
Oui.
John Rodrigue Allman, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Vraiment. Puis un gros merci encore à Danny de nous avoir mis en contact. Les auditeurs sont très heureux de vous entendre. Maintenant, on en sait un peu plus sur le métier d'agent infiltrateur.
Merci bien.
Merci à vous. On va s'arrêter. 11h14, on vient.
Marceau, le soir. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
On a passé une très belle matinée, Audrey. Vraiment, avec John Rodrigue Allemand, qui est un agent infiltrateur pendant plus de 18 ans, policier de la Sûreté du Québec pendant 37 ans, enquêteur pendant 30 ans aussi, travaillé à Québec, Rimouski. Faites le tour pas mal.
Je vous ai mis l'entrevue qu'on vient de faire sur le blvd.fm. Vous l'avez via l'application aussi, puis je vais la sortir sur notre chaîne YouTube. On dirait qu'il y aurait eu des questions encore à poser. Ça, c'est le genre d'individus qui ont des histoires. Mais moi, là, puis j'y ai dit, mais moi, je rêve qu'ils écrivent un livre. Il y a ces livres-là, Le cœur policier et compagnie, où c'est 30 histoires de policiers les plus marquantes. J'en prendrais tellement, là. C'est tellement des domaines qu'on connaît pas.
Yes. Ça a été une belle rencontre, puis tu sais, pour être très honnête, quand je l'ai vu arriver à réception, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il nous avait pas dit qu'il allait se déguiser.
Non, on savait pas si c'était lui ou pas.
Fait qu'il s'est déguisé en motard.
Oui.
Mais le gars, c'est un policier. Ouais. Puis quand il a enlevé toute son intricure, là, tu le voyais qu'il avait une tête de policier, puis la carrure d'un policier et tout ça, c'était assez particulier.
C'est impressionnant, ouais, sincèrement.
Vraiment. Hey, je t'assure de passer une belle fin de journée. On t'écoute avec Denis tantôt.
Oui, avant qu'on parte... une paire de billets à vous donner au 88-971-1021 pour Jelly Roll, sa tournée Beautifully Broken Great Northern qui s'arrête au Centre Vidéotron le 26 mars prochain. Dans les invités spéciaux, Josh Ross, lui étant en première partie de Nickelback quand sont venus au Centre Vidéotron, le gars est tellement talentueux. C'est une soirée à pas manquer, évidemment, avec Jelly Roll qui a tous les talents. Les billets sont en vente à partir de vendredi 10h sur gestev.com, ticketmaster.ca en passant. Ouais, c'est celle-là que tu as choisie parmi toutes les chansons.
Identifiez-moi cette chanson-là.
Hey, vous l'entendez dans le Rock and Chill, vous l'entendez partout.
Quand tu me fais jouer ça le samedi et le dimanche, là, je monte le son dans le fond, mes gars capotent.
Oh oui! Bon, je suis contente. Indice, c'est Machine Gun Kelly qui accompagne Jelly Roll sur cette chanson-là. Fait qu'écrivez-nous le titre au 88-971-1021. Jelly Roll au Centre Vidéotron, c'est une présentation de Live Nation et de Justève. Fait que la paire de billets, une des premières qu'on donne à Québec, c'est Boulevard 101 qui vous la donne au 971-1021. Votre nom en passant, très important. Lonely Road.
Audrey.
Hey, on se voit demain.
Bye bye.